C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Alice Milo.
Bonjour. Le grenadier de roche et l'empereur sont menacés d'extinction. Ces poissons vivent au fond des océans, à plus de 1000 mètres sous la surface de l'eau, au milieu d'un fabuleux écosystème constitué de milliers d'espèces, dont nous n'avons même pas connaissance à ce jour, puisque seulement 1% des océans a été exploré par l'homme. Un trésor de biodiversité caché dans la profondeur froide et sombre des fonds sous-marins. Un monde où tout semble au ralenti et dont la quiétude est parfois bouleversée par l'arrivée violente d'un chalut profond, ces immenses filets de pêche qui raclent les fonds marins jusqu'à près de 2000 mètres sous la surface des océans et qui dévastent tout sur leur passage. C'est la méthode de pêche la plus destructrice à nos jours, d'après les Nations Unies.
C'est pas du vent sur RFI.
Frédéric Lemanac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur scientifique de l'ONG Bloom, qui milite donc pour la préservation des océans. Et depuis quelques jours, cette fameuse technique de pêche, le chalutage, n'est plus autorisée en eau profonde suite à l'entrée en application d'une réglementation européenne. Cela signifie donc qu'au-delà de 800 mètres de profondeur, les chalutiers n'ont plus le droit de traîner leur filet au fond des océans. Et cela fait des années que Bloom, votre ONG, se bat pour obtenir cette réglementation.
Oui, tout à fait. Ça fait plus de 8 ans en fait que Bloom se bat contre cette technique de pêche qui cime des espèces qui peuvent se reproduire à l'âge de 30 ou 40 ans, qui peuvent vivre jusqu'à 150 ans, donc qui sont extrêmement vulnérables à la moindre pression de pêche et qui peuvent être très vite mises en danger d'extinction. Oui.
Vous avez directement fait pression sur les premiers concernés, en l'occurrence Intermarché, qui est le distributeur principal des poissons qui sont pêchés dans les profondeurs des océans.
C'est ça, en fait. Intermarché a sa propre flotte de pêche pour approvisionner ses magasins. On a fait pression sur Intermarché grâce aux citoyens. C'est vraiment les citoyens qui, après avoir signé la pétition, sont allés dans les Intermarchés et ont dit clairement, tant que vous vendrez ces espèces profondes, nous ne viendrons plus chez vous. Donc c'est remonté très très vite à la direction. La plupart des autres enseignes de grande distribution avaient pris les devants en disant nous ne nous approvisionnerons plus auprès d'Intermarché ou nous allons cesser de vendre ces espèces. Et Intermarché a été acculé et a dû très vite annoncer que eux aussi allaient arrêter la pêche profonde.
Alors dans ces profondeurs maritimes, les scientifiques découvrent une nouvelle espèce toutes les 2 semaines. Le fond des océans est donc le plus grand réservoir de biodiversité de la Terre. Quelle catastrophe environnementale évitons en interdisant donc ces chalutiers de pêcher en eau profonde? Concrètement, pour qu'on puisse imaginer, qu'est-ce qui se passe après le passage d'un chalut?
Après le passage d'un chalut, tout est écrasé, tout a été réduit en poussière. Le problème, c'est que dans ces écosystèmes profonds, il n'y a pas une densité qui est incroyable, comme par exemple dans la forêt équatoriale. Tout vit très lentement, tout est immensément gros ou alors tout petit. La physiologie est très lente. Et donc vous avez par exemple énormément d'espèces de coraux qui vivent dans les grandes profondeurs. Et contrairement aux coraux que nous on connaît en tant que citoyens lambda, qui sont les jolis coraux des eaux tropicales, par exemple la Grande Barrière de Corail, les coraux profonds, eux, ne construisent pas de récifs, à part 2 ou 3 espèces. Et donc, si vous voulez, vous avez quelques branches de corail par-ci, par-là. Et donc, c'est absolument impossible de contrôler exactement où le filet va passer. Et on se retrouve à pêcher des coraux qui ont plusieurs milliers d'années, des éponges qui ont plusieurs centaines d'années, des requins profonds qui sont très, très sensibles à la pression de pêche. Et de toute façon, même les espèces qu'on cible sont menacées d'extinction ou alors en très mauvais état déjà.
Et également une pêche qui est non sélective, hein, puisque le drame, c'est que quand le chalut passe, il attrape tout, vous l'avez dit, et donc il ramène sur le bateau des poissons qui n'intéressent pas finalement les revendeurs.
C'est ça, le chalut est totalement non sélectif, donc c'est un chalut, en fait, c'est un grand filet en forme de chaussette qui est lesté avec des gros panneaux métalliques qui peut faire plusieurs tonnes chacun, et donc vous allez racler le fond de l'océan et capturer tout ce qui passe sur le passage de chalut-là. Et donc vous allez aussi cibler des espèces de requins ou des espèces de poissons qui n'ont absolument aucun intérêt économique, et vous allez cibler quelques espèces qui ont été valorisées par Intermarché ou par la restauration collective, donc c'est la lingue bleue, le grenadier de roche, l'empereur, le sabre noir.
Pour revenir à cette réglementation européenne donc, qui interdit l'usage de ce chalut en eau profonde et qui est entrée en vigueur le 12 janvier dernier, concrètement, à qui ça s'applique et où ?
Alors le règlement, c'était une grosse perte par rapport à ce qui avait été décidé par le Parlement européen. Le nouveau règlement européen, il s'applique uniquement aux eaux européennes de l'Atlantique Nord-Est et aux eaux internationales de l'Atlantique Centre-Est. Nous, ce qu'on aurait voulu, ça aurait été que ce règlement s'applique également aux eaux internationales de l'Atlantique Nord-Est. Pourquoi ? Parce que les Espagnols pêchent énormément dans ces eaux-là, internationales, et très peu dans les eaux communautaires. Mais il y a eu un lobby féroce et les Espagnols ont gagné la partie sur ce point-là au moins. Donc ça ne s'applique pas du tout aux eaux internationales de l'Atlantique Nord-Est. Après, nous, on espère que ce règlement-là va faire jurisprudence et va servir, par exemple au niveau des Nations Unies, de faire interdire cette pêche-là également dans les eaux internationales. Que ce soit en Atlantique ou dans le Pacifique ou peu importe.
Mais les trois quarts de la surface de la Terre sont recouvertes par les océans. Cette zone dont vous parlez est immense. Comment est-ce qu'il va être possible de contrôler ces chaluts ?
Alors le règlement, il a aussi une clause d'observation. Donc 20% des marées doivent avoir un observateur qui va permettre de voir quelles sont les espèces qui ont été pêchées, si des coraux ou des éponges ont été capturés dans les filets. Et de toute façon, on a maintenant tout un panel de technologies qui permettent de contrôler la pêche. On a par exemple les données satellites. Chaque bateau industriel en Europe a une balise GPS qui permet aux autorités de traquer où ce bateau se situe. Et avec des algorithmes mathématiques, on est capable de savoir si un bateau est en activité de pêche ou s'il est juste en transit. Quand il va d'une zone à l'autre, il va tout droit. Quand il pêche, il a un pattern qui est différent.
R. Je disais que F. Il fait trop chaud ici.
I. Pour nous écrire, c'est pas du vent. @rfi.fr.
On pêche les égales, mon lit. Chercher poisson pour y chalir. Arrivé tout près, yon grand faux blanc. Bateau l'y viré, et l'y chaviré, tout ne disparaît. Bonhomme, bonhomme, bonhomme tombé en bateau. Bonhomme, bonhomme, bonhomme tombé en bateau. Oye, oye, bonhomme, de la fête même en Saoudia. Bonhomme, bonhomme, bonhomme.
Les pêcheurs Mounde Rivel sur RFI. Les techniques de pêche telles que le chalut peuvent être dramatiques pour la biodiversité des océans, mais aussi pour les hommes. En Afrique de l'Ouest, les pêcheurs traditionnels qui utilisent la pirogue sont les premières victimes d'une concurrence déloyale de la part des navires étrangers, notamment chinois, coréens ou européens, qui ratissent les fonds au large. Certains le font en toute illégalité, sans aucune autorisation de pêche. D'autres sont munis d'autorisation, mais déclarent des tonnages bien en dessous de la réalité ou pêchent dans des zones protégées. 300 millions de dollars par an, c'est le manque à gagner pour le Sénégal de cette pêche pirate et illicite. Et les premiers touchés, ce sont les petits pêcheurs. Direction Dakar, justement, où Binta Diane s'est rendue au quai de pêche de Soumbédioun.
17h sur le quai de pêche de Soumbédioun, autour d'une pirogue, des pêcheurs puisent leur dernière énergie pour débarquer leur grande embarcation après une journée passée en mer. Ces derniers temps, ils reviennent souvent en bredouille de leur expédition. Il y a bien sûr les pêcheurs, les femmes qui animent le marché aux poissons, les jeunes vendeurs ambulants qui proposent aux clients de découper ou d'écailler leurs produits. Et enfin, il y a tous ces mareyeurs qui négocient durement leur prise du jour pour les revendre auprès de sociétés qui, en dernier ressort, exportent leurs marchandises les plus nobles vers l'Europe. Hamidou Sey dirige l'association des mareyeurs de Soumbédioun. Il dresse un constat amer. Ces dernières années, plusieurs espèces de poissons ont quasiment disparu.
On est confronté avec beaucoup de difficultés. Parce qu'en tant que mareyeur, si les pêcheurs ne peuvent pas amener du poisson, donc il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Mais sur les années 80, il y avait beaucoup de poissons. Le mérouzon, les tchof, les damtex, la dorate, les rouget. Mais ça ne coûtait rien du tout. Ça coûtait rien du tout. Parce qu'au début, si tu avais 1200 jusqu'à 1500, tu pouvais avoir la kilo de dorate. Le tchof à 2000, 1800 jusqu'à 2500. Maintenant, c'est excessivement cher parce qu'il n'y a plus de poissons. Les Européens ont tout pris. Le tchof coûte à 5000, 7000 le kilo. Le petit mérouzon coûte à 6000, 6500, 7000 le kilo. Le rascasse coûte à 5000, 7000 le kilo. Donc vous voyez, il n'y a plus rien.
Non loin, Oumar Ndoye répare sa pirogue, un bateau en bois un peu défraîchi qui lui a servi depuis ses débuts dans les années 90. Ce pêcheur estime que les difficultés de la pêche artisanale sont bien plus profondes. Il y a aujourd'hui beaucoup plus de pêcheurs et donc plus de concurrence, sans compter les nombreuses charges.
Ces chalutiers étrangers sont arrivés au moment où justement l'état des ressources s'est dégradé. Les bateaux étrangers n'ont fait qu'aggraver la situation parce qu'ils ont capturé des poissons dans les zones réservées au repos biologique. Ensuite, l'autre problème, c'est qu'il y a énormément de jeunes qui se sont lancés dans la pêche. Ils ont beaucoup d'attentes, mais c'est un métier vraiment difficile. Le matériel est coûteux, rien que pour le moteur, il faut compter 12 millions de francs CFA. Ensuite, le carburant est cher. Je dépense chaque jour 16 000 francs CFA. Puis à côté de ça, il n'y a plus de poissons. On ne pêche presque plus de sardinelles, ni de crevettes, et j'en passe. Alors au final, on investit beaucoup pour pêcher et on rentre souvent les caisses vides.
Le 15 octobre dernier, 31 États africains ont adopté une charte pour lutter contre la piraterie et la pêche illégale. C'était à Lomé, au Togo. Réaction d'Ibrahima Cissé, responsable de la campagne Océan pour l'ONG Greenpeace, basée à Dakar.
Moi, je pense que c'est des initiatives à saluer, plus qu'à critiquer, c'est une initiative à saluer. Parce que l'Union africaine considère maintenant la stratégie intégrée des mers des océans en 2050 comme étant quelque chose d'important pour l'Afrique. Bon, c'est une bonne action. Maintenant, suffisante, je ne dirais pas suffisante, parce qu'il faut un plan d'action dans tout ça. Quel est le plan d'action qui suit cette charte-là? Un plan d'action qui dit comment concrètement on va appliquer cette charte.
Mais justement, quels sont les moyens qui sont, que se sont donnés les États pour lutter contre cette pêche illégale et cette piraterie? Est-ce qu'il y a quand même des contrôles régulièrement qui sont faits en mer pour essayer de stopper ce trafic-là ou pas?
Oui, il y a des contrôles qui sont faits. Chaque pays, tous les pays disposent d'autorités chargées de la surveillance des pêches. Ils font les contrôles, ils ont des vedettes, etc. etc. Ils ont les moyens. Seulement, par rapport à la Z2 de ces différents pays, les moyens dont ils disposent sont très faibles. Ils ne peuvent pas faire le contrôle et cela demande beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'appui et une collaboration au niveau sous-régional. Non, il y a des amendes très lourdes actuellement parce qu'il y a eu des révisions au Sénégal, le code de la pêche a été révisé. Donc actuellement, les amendes sont très lourdes. Justement, c'est ça. Si vous allez dans d'autres pays où, par exemple, il n'y avait pas eu ces révisions, où les amendes sont trop faibles, les armateurs peuvent envoyer leur bateau faire de la pêche illicite, sachant que même s'ils sont arraisonnés, ce qu'ils vont payer n'est pas, ça va pas être très conséquent pour eux. Par contre, quand les amendes sont très lourdes, là, ils évitent carrément. Donc, et c'est ça, pour ça qu'il faut avoir une harmonisation des réglementations au niveau de la sous-région, des sanctions et des réglementations. Une fois qu'on a ça, maintenant, le système de surveillance doit être aussi régional.
Frédéric Lemanac, vous êtes le directeur scientifique de l'ONG Bloom. La réglementation européenne interdisant la pêche aux chalutiers en eau profonde, qui a été mise en application début janvier, ne concerne donc pas les eaux territoriales de l'Afrique de l'Ouest et donc ne protège pas les pêcheurs qu'on a pu entendre dans le reportage de Bintadial.
Non, pas du tout. La nouvelle interdiction du chalutage profond s'applique uniquement aux eaux communautaires en Europe et à quelques eaux internationales dans l'Atlantique centre-est. Mais c'est vrai que la concurrence déloyale dont vous parliez est avérée, et ça depuis plusieurs dizaines d'années, puisque les bateaux européens et américains et asiatiques ont commencé par surexploiter leurs eaux, et au bout d'un moment, ils ont plus de poissons dans leurs eaux. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés plus loin, plus profond. Donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à développer la pêche en eau profonde. Et ils sont aussi allés négocier des accords de pêche avec des pays africains, des pays en Océanie, des pays dans l'océan Indien, pour continuer à approvisionner leur marché. Et dans le reportage qu'on vient d'entendre, on a entendu parler du Tiof, qui est le mérou brun, qui est la base du plat national sénégalais, donc qui était présent sur toutes les plages, dans tous les marchés sénégalais il y a encore quelques années. Actuellement, vous n'en avez plus. Et le Tiof, vous le voyez où? Vous le voyez en France, chez Intermarché par exemple, ou dans d'autres grandes surfaces de poissons, vous voyez du Tiof, qui vient d'Afrique de l'Ouest. Donc il y a une concurrence qui est déloyale, qui est doublement déloyale, parce que les grands bateaux européens ou asiatiques qui se retrouvent en Afrique de l'Ouest parce que leurs eaux sont surexploitées, sont des bateaux qui sont autrement plus gros et efficaces que les bateaux locaux, et en plus ce sont des bateaux qui sont subventionnés, alors que la pêche africaine n'est pas subventionnée par les États. Donc c'est vraiment doublement déloyal.
Vous, chez Bloom, vous interdisez donc, vous avez favorisé l'interdiction du chalutage profond, mais quelles sont les bonnes méthodes de pêche que vous valorisez? C'est-à-dire que si le chalutage profond n'est pas une bonne méthode de pêche, quelles sont celles qu'il faut privilégier?
Alors, chez Bloom, on pense que la pêche durable, déjà, c'est pas uniquement l'environnement, mais c'est l'environnement, le social et l'économique. Par chance, les trois vont ensemble. Donc si vous préservez l'environnement, vous allez aussi préserver le social et l'économique. Donc en favorisant des méthodes de pêche qui sont plus vertueuses, comme par exemple la pêche à la ligne ou au casier, ou pas au chalutage profond, vous allez d'une part protéger l'environnement, vous n'allez pas le détruire, donc vous allez avoir des habitats qui sont en meilleure santé, des populations de poissons qui sont certainement en meilleure santé aussi, et qui vont être plus résilientes, c'est-à-dire qu'ils vont plus avoir la possibilité une élasticité face à l'effort de pêche et au changement climatique, par exemple.
Parce que là, vraiment, on choisit le poisson dont on a besoin.
Là, on choisit le poisson dont on a besoin, avec des méthodes de pêche comme ça.
Donc ça évite ces images qui sont assez scandaleuses, où on voit des tonnages de poissons qui sont déversés morts par-dessus bord.
C'est ça. Avec des méthodes de pêche non sélectives, vous allez détruire l'environnement et pêcher plein d'espèces dont vous n'avez pas besoin, que vous ne pouvez pas valoriser, et donc vous allez les rejeter à la mer. Ça, maintenant, c'est une pratique de pêche qui est interdite en Europe, avec la nouvelle réforme de la politique commune de la pêche. Les rejets sont interdits, donc vous devez débarquer théoriquement tout ce que vous pêchez. Le problème, c'est que cette interdiction a été mise en place avant que l'Europe ne favorise la transformation des engins de pêche. Donc vous avez toujours en Europe des méthodes de pêche qui sont peu sélectives, voire pas sélectives du tout, et en même temps, on oblige les pêcheurs à débarquer leur capture. Donc c'est un contresens total.
Mais donc, du coup, il existe aujourd'hui une dizaine peut-être de techniques de pêche. Parmi elles, il y a encore des techniques de pêche qui ne sont pas forcément très valorisantes. Mais comment le consommateur, lui, peut savoir, quand il achète son poisson, si son poisson a été utilisé avec une technique de pêche qui protège l'environnement ou une technique de pêche qui va être dévastatrice pour l'écosystème?
Alors, depuis décembre 2014, les techniques de pêche doivent être inscrites en Europe sur les étiquettes des poissons. Donc ça, c'est déjà un bon moyen de commencer. Sur le site de l'association Bloom, à bloomassociation.org, on a un petit onglet qui s'appelle mieux consommer dans nos actions. Et sur cet onglet, on a créé une infographie des techniques de pêche dans lesquelles on les a catégorisées selon leur impact sur l'environnement. Donc on a les techniques de pêche qui sont destructrices et les techniques de pêche qui sont peu destructrices. Donc déjà, ça peut être un bon moyen de commencer à faire son choix de manière plus vertueuse, éviter les techniques de pêche qui sont les plus destructrices et favoriser celles qui sont le moins destructrices.
Qui sont donc ?
Qui sont, par exemple, j'ai cité la pêche à la ligne ou la pêche au casier. Et en plus, on va créer de l'emploi.
Voilà, qui ont ce double avantage puisqu'elles sont beaucoup plus pourvoyeuses d'emploi que le chalut, puisque finalement, c'est vraiment le chalutage, c'est celui qui génère le moins d'emplois.
C'est ça. C'est pas que le chalut de fond ou le chalut fond profond, ça peut être aussi, par exemple, en Afrique de l'Ouest, il y a énormément de pêche pour aller pêcher les sardinelles, dont on parlait dans le reportage. C'est un tout petit poisson qui est à la base de l'alimentation de l'Afrique de l'Ouest, mais que nous, on réduit en farine pour alimenter l'aquaculture ou l'élevage porcin et aviaire. Quelque chose qui est complètement absurde, de réduire du poisson sauvage en poudre pour produire une protéine de mauvaise qualité à terre ou dans les fermes d'aquaculture en Norvège. Ça, c'est pas pêché au chalut de fond, c'est pêché avec des seines, donc c'est des filets qui vont entourer les bancs de poissons et les prélever dans leur quasi-intégralité, ou qui peuvent être pêchés avec des chaluts qu'on appelle pélagiques, donc c'est des chaluts qui sont pareils en forme de chaussettes, mais qui ne vont pas racler le fond de l'océan. Mais cette pêche, elle se fait dans des proportions qui sont absolument démentes. Et forcément, si vous exterminez des bancs de poissons de manière quasiment intégrale, les poissons comme le tiof, le mérou brun que les Sénégalais voulaient pêcher, ils vont plus avoir de quoi se nourrir. Donc là aussi, on va avoir un impact environnemental qui va être dramatique, même si on ne détruit pas l'habitat.
Regardez les étiquettes. Est-ce qu'il faut aussi éviter certaines espèces de poissons?
Oui, il y a certaines espèces qui sont à proscrire. Nous, on n'est pas du tout partisans d'avoir une liste avec des couleurs vert, jaune, rouge, comme on peut le voir dans certains guides. En revanche, toutes les espèces profondes qu'on a citées en début d'émission, comme la lingue bleue, le grenadier de roche, le sabre noir, l'empereur, les sébastes, tout ça, ce sont des espèces qui sont à proscrire, puisque ce sont des espèces qui sont très sensibles à la pression de pêche, de par leur trait de vie. Et toutes les espèces qu'actuellement on réduit en farine pour nourrir les porcs et les saumons, on ferait mieux de les consommer directement. Donc favoriser les sardines, les anchois par exemple.
Et de manière plus générale, vous encouragez les consommateurs à réduire leur consommation de poissons?
Bien sûr, c'est la règle numéro un, réduire la consommation de protéines animales. C'est pas uniquement que le poisson, c'est aussi la viande rouge.
Merci Frédéric Lemanac pour votre participation. C'est pas du vent, restez avec nous juste après le flash. On continue de parler des animaux. Faut-il ou non continuer à consommer des produits issus des animaux? C'est dans 3 petites minutes. À tout de suite. International.